Texas, Chicago y no.
Formidable, on commence avec le Corrido. Ça, ça vous a plu vendredi, le numéro spécial Corrido. Et du coup, vous avez rempli le répondeur de messages tout au long de ce week-end. Voilà, quelques nouvelles du front, telles qu'entendues dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Ouais, Danielo, c'est toute l'équipe, voilà. Salut, c'est la manif, la grande manif, la plus grosse manif des handicapés. La plus grosse manif de la France invisible, voilà. 800 000 dans toute la France, 20 000 aujourd'hui à Paris. Tous préparés, tous avec en tête les promesses d'un certain Jacques C, qui avait promis. Ils ont retenu, ils ont vu, ils ont rien vu. Et puis là, voilà, Sarkozy a promis, lui, les 25%. Faire attention quand on promet, hein. Faire très attention, parce que les gens sont attentifs, les gens sont pas soumis, les gens, parce que ça les concerne de près. Voilà. Et puis bon, avec les franchises, tout ça prend son sens, en fait. Ça prend du sens. Et voilà, j'engage tout le monde à soutenir le mouvement des handicapés, de la France invisible. Et en militant, en encadrant, voilà, un peu de son temps, un peu de bénévolat, un peu de... voilà. Bon, à plus tard, les AMG, etc.
Ni pauvre, ni soumis. Samedi 29 mars 2008. De la manif, je suis rentrée fourbue. Ce matin, c'était pire. Je ne suis sûrement pas la seule. Pendant la manif, pas assez de bruit, pas assez de réactions. Des regards qui fuyaient de la part des passants sur les trottoirs. Des sourires ont été suffisants pour ravaler ma colère et ma tristesse. Seule avec un fiston de 18 ans scolarisé, je n'y arrive pas financièrement. Incapable de travailler, je dépense beaucoup d'énergie et de dignité pour obtenir des aides ponctuelles. 628 € par mois, c'est tout. Donc il faut tendre la main à droite, à gauche, auprès de l'assistante sociale du quartier, de la Cotorep, de la CAF, de la CRAM, et à chaque fois déballer sa petite culotte sale pour faire comprendre mes difficultés. Colère, colère, colère. Je ne souhaite pas manger du caviar, mais vivre tout simplement. Quelqu'un de chez vous est venu enregistrer dans le cortège des témoignages. On a besoin qu'ils soient diffusés. Françoise Gaillard.
Oui, alors, professeur Lordon, j'ai voulu approfondir votre cours du 28 mars. Alors, quand j'ai entendu Madame Parizeau, je cite, « J'ai trouvé tout à fait intéressante la tribune de Michel Rocard dans Le Monde, rappelant que les penseurs du libéralisme étaient également des moralistes. » Les cons, ça ose tout. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Alors, si ça, je suis allé voir cette tribune pour trouver les noms de ces penseurs essentiels. Alors, Monsieur Rocard nous parle de Henry Ford. Au sujet de la capacité du capitalisme à s'imposer une éthique exigeante. Excusez-moi. Alors, on connaît bien Henry Ford à la base, j'y suis. Question pour un champion. Je suis un des hommes politiques les plus célèbres du XXe siècle. J'ai dans mon bureau le portrait d'Henry Ford. Je le considère comme mon père spirituel. Et d'ailleurs, il a été un des premiers actionnaires de mon entreprise de moralisation. Je suis Adolf Hitler. Oui, je suis Adolf Hitler, c'est gagné. Alors, monsieur Lordon, j'ai une question. S'agit-il d'une faiblesse passagère concernant monsieur Rocard? Dans quel cas je lui souhaite un bon rétablissement? Ou alors, ces références éthiques peuvent-elles expliquer ces décision concernant la déréglementation financière, parce qu'il me semble qu'il était au pouvoir avec, avec les socialistes à cette époque. Ben, merci d'avance pour votre réponse.
Bonjour Daniel et bonjour toute l'équipe de La Basse J'y suis. Pourquoi parlez-vous si peu des établissements scolaires français publics qui sont en grève? Les enseignants du collège Jean-Jacques Rousseau du Pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis sont en grève depuis 2 jours. Ils ne sont pas les seuls, il y en a énormément dans les académies de France et de Navarre. Et nous sommes en grève pour dénoncer les suppressions de postes. Qui dit suppression de postes dit mauvais apprentissage de nos élèves, dit heures supplémentaires pour les collègues, dit disparition de création de postes pour les enseignants. Dit donc petit à petit, et à pas si long terme que ça malheureusement, disparition de l'école publique, laïque et républicaine à laquelle nous tenons tous, que nous défendons. Et il faut absolument que les médias en parlent, il faut absolument alerter les gens, alerter les parents d'élèves, alerter les jeunes, les vieux, tout le monde, parce que de donner des heures supplémentaires aux professeurs, c'est leur donner du travail en plus, c'est donner de moins bonnes conditions dans les écoles et dans les collèges et lycées français. Et c'est donc indirectement faire fuir des populations un petit peu plus favorisées vers l'école privée, ce que nous ne voulons pas, car nous sommes encore nombreux à être pour une école laïque, nationale, publique, égalitaire. Et là, on est en train de faire disparaître l'égalité sur le fronton de nos écoles, de nos mairies, et c'est extrêmement grave. Alors s'il vous plaît, les médias, faites en sorte qu'on en parle, faites en sorte qu'on nous entende, qu'on nous écoute et qu'on nous comprenne. Merci beaucoup. À bientôt.
Oui, bonsoir Laurent dans le Val-de-Marne. Voilà, je viens d'écouter l'émission sur les corridos, sur ces chants mexicains. Voilà, ça faisait tout simplement du bien, quoi, d'entendre cette musique-là. Ça me rappelait de bons souvenirs. Et puis surtout, merci de ne pas parler, de ne pas traduire pendant que les que le chanteur s'exprime, quoi. Ça fait beaucoup de bien. Ben pour compléter, j'avais envie de laisser deux petites références. Donc la première, ben il s'agit de l'album Corridos Prohibidos, ben d'ailleurs qui a permis d'illustrer une émission de La Basse J'y suis du 6 décembre 2007. Et la deuxième référence, c'est un documentaire justement sur les corridos, mais cette fois c'est dans les années 20-30 sur le Mexique, un documentaire que j'ai pu voir à Biarritz en 2001 ou 2002. C'était lors du festival latino-américain qui a lieu début octobre. Et le documentaire s'appelle Corridos sin Rostros, daté de 1995 sur l'américaine zapatiste. Voilà, juste un grand merci et bonne suite à tous. Ciao, bye bye.
Bonjour à toute l'équipe, c'est juste pour vous signaler que il est impossible de signer la pétition concernant donc la spéculation et crise. Voilà, donc stopfinance.org, ça marche pas, on n'arrive pas à y aller. Voilà. Merci, au revoir.
Eh oui, mais ça s'est arrangé, effectivement. Le serveur a explosé suite au lancement de cette pétition. Je rappelle l'émission de jeudi où Frédéric Lordon, économiste distingué, a expliqué pourquoi il lançait en tout cas, lui et toute une série de chercheurs et d'économistes, une pétition intitulée « Spéculation et crise, ça suffit ». Alors vous avez sauté sur votre souris et moralité, eh bien le serveur a explosé et 5000 signatures, les 5000 premières signatures qui sont arrivées dans les 24 heures, eh ben sont perdues parce que ça a sauté. Alors ça a été rétabli hier dimanche en début d'après-midi grâce à Franck, l'héroïque Franck, le webmaster de là-bas.org, qui a rétabli la situation. Vous vous souvenez de la pétition, la fameuse pétition en soutien à la base J'y suis. Donc Franck a une certaine expérience, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas à l'abri d'un nouvel incident. Alors, vous avez signé, eh bien, retournez-y si vous voulez bien, et prenez connaissance de tout ça, à la fois du texte de cette pétition, et puis de l'émission qu'on a faite avec Frédéric Lordon, où il explique tout ça très bien. pour écouter Frédéric Lordon, c'est là-bas.org, là-bas.org. Et pour la pétition directement, c'est www.stop-finance.org. Je répète, www.stopfinance.org. Merci aussi pour ces messages concernant la manif de samedi à Paris, ni pauvre ni soumis. C'était effectivement très très émouvant et très fort, cette manif. Je suis allé voir un peu, accompagner un peu vers la place de l'Opéra, tout ça. Merci pour ces messages. On se met en écoute de tout ça. Effectivement, on n'a jamais fait de reportage sur ces sujets et c'est dommage. Ça nous donne envie de nous pencher un peu plus sur ces questions. Et puis, alors toujours les mémoires, je me souviens de mai 68. On est en train d'accumuler des témoignages, vos témoignages. C'est très très bon, hein, c'est très précieux. C'est souvent, très souvent, vos témoignages portent sur le monde ouvrier, sur les entreprises où vous avez travaillé à l'époque. Il y a des souvenirs très très émouvants. Des fois, c'est très précis. Enfin bon, continuez. Donc, je me souviens de mai 68. Et aujourd'hui, on continue la balade le long de la frontière, en route pour Tijuana. Et là, on va s'arrêter en Arizona. Quand j'étais môme, le seul mot d'Arizona, je me mettais à marcher comme un cow-boy. Et oui, le décor est à peu près ceux des films de mon enfance, mais les personnages ont quand même pas mal changé. Quoique, on va rencontrer pas des cow-boys, mais des gars qui quand même se prennent bien à ce jeu, à croire qu'ils copient les clichés de d'une certaine Amérique profonde. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, c'est Ray de l'île de la Réunion. Il y a quelque temps, tu avais fait une émission sur les îles des Comores avec le aigu qu'on connaît. Sache que la situation est toujours aussi explosive, plus que jamais. Les troupes africaines donc ont débarqué avec l'aide de la France en juin pour déchoir le dictateur Bakar. Bakar a trouvé refuge dans un premier temps à Mayotte, puis à la Réunion où il a été interpellé par les autorités policières. Il va passer en justice. Il se trouve qu'entre-temps, les clandestins en journée sur l'île de Mayotte l'ont appris. Ils ont provoqué des émeutes toute la journée de jeudi, s'en prenant notamment aux Mzungu, c'est-à-dire les Blancs. Il y a eu caillassage, il y a eu lynchage. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus tranquille. La situation a été sécurisée et en raison notamment de la présence du secrétaire d'État, Jégou, sur l'île. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant les Enjouanais clandestins se terrent, montent dans les montagnes, les radios en passent, ça rappelle de tristes faits historiques, ça fait froid dans le dos. La situation est explosive. Et la France, j'entends notre président Sarkozy dire en Angleterre qu'on ne peut plus produire des milliards et laisser sur le bas-côté les pauvres. Il serait peut-être temps d'appliquer cette analyse chez nous, à Mayotte, territoire français, qui jouxte des îles très très pauvres. Voilà, moi j'ai des amis à Mayotte, j'ai pas de nouvelles, je suis inquiet. J'aimerais que nos dirigeants vivent cette même inquiétude.
Salut Daniel, salut tous les auditeurs. J'appelle pour annoncer la tenue du Café Repère à Genève ce mardi 1er avril à partir de 18h au Café Gervaise, 4 bis boulevard James Fazi. J'annonce aussi, j'en profite pour annoncer que le lendemain, au même café, à partir de 18h encore, se tiendra une soupe populaire en soutien aux grévistes de la région de Bellinzone pour CFF Cargo, qui sont en grève depuis déjà un petit moment. Donc on organise une soupe pour collecter des fonds pour soutenir la grève. Alors voilà, je rappelle, mardi 1er avril, repère des AMG au Café Gervaise, et mercredi 2 avril, soupe de soutien aux grévistes de Bellinzone au Café Gervaise encore. Merci beaucoup. Ciao.
La base est ici.
Que les bidons, ils les ont installés aux endroits où ils ont trouvé le plus de morts, quoi. Donc c'était des chemins, les chemins de la mort. Et dans ces chemins de la mort, ils ont installé des bidons. Voilà. Donc il y a 88 bidons en tout qui remplissent une fois par semaine en hiver et une fois par jour en été. Voilà ce que font nos amis de Human Border, de la Fronteras Compassivas.
Go! Woo! Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis avec Antoine Chao. Et qui vanque-t-il en route pour Tijuana? Mais qui c'est qui va ramasser nos salades?
Flight number two, arriving from...
Et j'irai lui parler en première.
It is not a good idea for everyone to get out of the vehicle all at once and rush over to the pobrecito.
Mais surtout que personne ne sort pas tout le monde des voitures en même temps pour aller voir ce pobrecito.
I will talk to him first.
D'abord, je
vais
lui parler.
Your vans and trucks and cars. Tell you what's going on.
Et après, je vous dirai.
And depending on the situation.
Et selon la situation.
You might have a chance to talk
on
to
pourra
him,
peut-être parler
but
avec lui.
But it's really important that you stay in your vehicles.
Mais surtout restons dans les véhicules.
At least until I make the first contact.
Le temps au moins de prendre le premier contact.
And kind of make sure that the person is stable, okay?
Okay.
Agent apprehended a migrant. The agent was responsible for returning the migrant to either a detention center or to the other side of the border, that is to say back to Mexico. However, now we have...
On est en train de suivre un petit cortège de véhicules à travers le désert d'Arizona. Et celle qui parle, elle s'appelle Sarah. Sarah est dans un véhicule devant une camionnette et elle parle aux véhicules qui suivent. Et qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on va mettre de l'eau dans le désert. On est avec les Human Borders. Qui c'est les Human Borders? Eh bien, ce sont ceux qui ont choisi de protéger et d'aider les migrants, ces clandestins qui par milliers, par centaines de milliers chaque année tentent de franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis et qui, dans la région où nous sommes, l'Arizona, eh bien, souvent se perdent dans le désert d'Arizona et connaissent la déshydratation, des problèmes et finissent par mourir. On compte à peu près un minimum de 600 morts par an sur cette frontière, dont environ 300 rien que pour l'Arizona. Quand on parle d'une ligne de front, quand on parle d'une guerre économique, c'est plus seulement une métaphore, là ça devient une réalité. Et ces gens de Human Border, qui est une association, une ONG, basée à Tucson, dans l'Arizona, à 90 km au nord de la frontière, eh bien... se sont employés à poser à travers le désert un certain nombre de réservoirs d'eau marqués par un mât avec un drapeau bleu. Et de cette façon, les gens perdus, les clandestins qui sont perdus dans le désert, ben au moins peuvent trouver là un point d'eau. C'est avec eux qu'on va passer cette heure, et puis on continuera, on va rencontrer des chasseurs, enfin dans ce désert. Mais avant de commencer, je voudrais que j'ai une petite réflexion sur George Bush, George W. Bush. Je trouve qu'on est très injuste avec W. Bush. Plus personne n'en veut, à part Monsieur Sarkozy, qui en pince pour lui et qui est devenu le caniche à la place du caniche, et qui lui a dit « Si seulement j'avais été là à la place de Villepin il y a 5 ans, la France y serait allée en Irak. » Et nous aussi, on aurait contribué à apporter là-bas la paix, la démocratie et la civilisation, comme vous le faites très bien, Monsieur le Président. Mais enfin bon, je vous en envoie 1000 là en Afghanistan, vous n'en parlez pas trop, c'est une surprise. Entre nous quand même, l'Amérique, voilà un pays qui aurait mérité un président comme Nicolas Sarkozy quand même. Hein, quand on se balade dans ce pays, on dit vraiment un pays si grand, ça aurait été très bien à sa taille. Notez que la prochaine fois, avec le prochain président ou la prochaine présidente, on sera très bien, on sera... Mais quand même, on regrettera un petit peu W. Peut-être pas pour tout ce qu'il a fait. peut-être pas pour tout ce qu'il a fait, lui et ses amis, mais au moins pour le mur, pour ce satané mur entre le Mexique et les États-Unis, un mur de 1120 kilomètres. Je vous rappelle, en 2006, le Congrès a décidé la construction de ce mur de 1120 kilomètres, c'est-à-dire un tiers de la longueur de la frontière qui sépare le Mexique des États-Unis. Pour quel prix? Oh, 2 milliards, on a dit au début, puis après on dit non, on a dit 7. Non, mais vous aviez dit 2. Non, c'est 7. Et puis finalement, on dit que c'est 20 maintenant. Oh, puis c'est peut-être 30. Enfin, voilà. C'est un truc assez cher. Et de toute façon, ça a aucune importance quand on est, on compte pas. Mais c'est une idée formidable. Ce mur, d'ailleurs, c'est là que Monsieur Hortefeux passe ses vacances avec ses enfants, hein, pour voir ce mur fabuleux qui se construit. Alors, si vous allez voir, on va s'en approcher aujourd'hui. C'est high tech, c'est virtuel. Il y a du virtuel, il y a du pas virtuel. Enfin, c'est très compliqué, mais c'est très excitant, évidemment. Et autrefois, d'ailleurs, on allait aux États-Unis pour le jazz, pour le cinéma, pour la route de Memphis, pour la fille du motel. Et aujourd'hui, on y va pour le mur. Voilà. C'est la curiosité. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le mur. Et c'est en cela qu'il faudra remercier un jour George W. Bush. C'est que ça ne marche pas. Ce mur, ça ne marche pas. Il a démontré là, ça aura coûté cher, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et c'est Rosita qui nous a dit, voyez, ce mur, c'est exactement comme si vous mettiez un caillou pour arrêter un torrent. Vous mettez une grosse pierre dans un torrent, bon, eh ben, l'eau va passer soit à gauche, soit à droite de la grosse pierre. Et c'est exactement ce qui se produit. Depuis que ce mur est en construction, eh bien, les migrants passent par à gauche ou à droite, mais passent toujours autant. Sauf que le mur leur fait faire de grands détours. Il n'y a pas que le mur qui leur fait faire de grands détours. Il y a aussi les Minutemen. On va parler de ces Minutemen qui sont des milices de citoyens qui défendent le sol américain et qui bloque l'arrivée de ces migrants et qui les signale donc à la police des frontières, ce qui oblige les migrants à faire des détours encore plus grands, et des détours plus grands en Arizona, c'est par le désert. Voilà pourquoi ils se perdent parfois dans le désert, et certains, je le disais, meurent de soif. Un impossible mur contre les pauvres, une absurdité démontrée par Monsieur Bush. Ce sera pas si mal, après tout, d'avoir laissé ça dans la mémoire des hommes. C'est jusqu'à 16h, c'est la basse ici. Check, 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 check. Okay. Let's go.
El mismo juego tan trillado ya. Yo dije
faites attention quand vous marchez dans les herbes. Parce que même s'il est encore un peu tôt pour qu'elles sortent, mais faites attention où vous mettez les pieds parce qu'il y a des serpents, des scorpions, des mygales.
Vous voulez que je vous dise ce qu'on est en train de faire là ?
Hein ? Qui n'est pas encore dans le retard, qui n'est pas encore dans le Lonely Planet, c'est le tourisme compassionnel. Tu vois, on essaye de faire du tourisme de toutes sortes, tu vois, sur la mémoire, le machin, l'histoire, les oiseaux, les trucs. Et là, c'est sur les migrants. Alors, on organise des tours. Au départ, d'un truc comme ça, c'est sympa, c'est généreux, c'est etc., charitable, mais ça tourne au tourisme compassionnel, quoi. Mais bientôt, ils pourront faire payer pour la bonne cause, quoi. Faire payer parce que voilà, ça évite à des enfants, à des femmes et à des hommes de mourir de soif, donc voilà, quoi.
Sagaï, I miss you.
Alors voilà, on est avec les Human Borders de Tucson, Arizona. Et c'est Sarah qui a prévenu, on est en train de rouler quelques voitures derrière cette camionnette que j'ai décrite. Et elle a prévenu qu'il y a des serpents, des scorpions, des mygales, c'est tout à fait vrai. Sauf que nous, on ne craint pas grand-chose, il faut quand même bien dire les choses. Mais ceux qui, par contre, tentent de passer cette frontière sont confrontés souvent à toutes ces difficultés. Et ça finit parfois très mal. Ou bien ça finit mal, ou bien... certains réussissent à passer et à rentrer aux États-Unis et à venir gonfler, augmenter le nombre de 11 à 12 millions de clandestins vivant aux États-Unis pour la plus grande joie de certains. Hein. Certains employeurs sont tout à fait ravis. D'ailleurs, je ne sais pas si je voulais mentionner, mais en début 2006, il y a eu de grandes manifestations, souvenez-vous, aux États-Unis, en faveur de ces clandestins. Des grandes manifestations, notamment à Los Angeles, 500 000 personnes à Los Angeles pour soutenir ces clandestins en disant aujourd'hui, nous marchons et demain nous voterons. Donc, comptez avec nous, il faudra compter avec nous. Et aussi, l'idée de dire, imaginez un jour sans Mexicains. Un jour sans Mexicains. Et oui, mais il y a beaucoup de choses qui s'effondreraient ou qui tomberaient en panne dans ce pays. D'ailleurs, ce que je dis là peut tout à fait s'appliquer à ce qui se passe dans notre beau pays. Très souvent, il y a analogie quand même. Il y a analogie. Je sais pas si, comme je l'ai affirmé tout à l'heure, il est vrai que Monsieur Hortefeux passe ses vacances sur cette frontière. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont comparables. Ce qui n'est pas comparable quand même, c'est les serpents, les scorpions et les mygales et le désert. Donc on est avec cette ONG Human Borders sous la houlette de Sarah qui sait absolument tout sur tout et qui mène cette visite guidée.
Been largely criticized by humanitarian groups
because some of the rights, vous appelez ça la fronteras compassivas, c'est-à-dire la frontière compassionnelle, human border, la frontière humaine ou humanitaire comme on voudra.
Sure, Humane Borders began in 2000. We were incorporated as a non-profit organization in Tucson.
C'est une ONG établie à Tucson depuis 2000.
With the idea that or with the knowledge that more migrants were dying in the desert because they did not have access to water.
Et c'est parti du principe, c'est parti du constat que de plus en plus de migrants mouraient dans le désert parce qu'ils n'avaient pas d'eau.
And so Humane Borders came about with the idea and the mission to put water in the desert and keep migrants from dying.
La mission principale, c'est de mettre de l'eau dans le désert pour pas que les clandestins, ceux qui franchissent la frontière, ne meurent de soif.
Alors c'est contradictoire, parce qu'à la fois, les pouvoirs publics vous donnent des autorisations, donc vous soutiennent, et en même temps, ces mêmes pouvoirs publics se donne pour mission de bloquer complètement l'immigration. Il y a quelque chose de paradoxal.
I think something that's important to note is that at the sort of policy level, Border Patrol thinks that the work of Humane Borders is valid and worthy because it's better for them to have less dead people in the desert.
C'est-à-dire qu'au niveau politique, la police des frontières trouve que notre travail est efficace et vaut la peine d'être fait parce que du coup, eux, leurs statistiques de mort à la frontière baissent.
In 2007, I believe the numbers were almost 240 people dying in Arizona alone.
En 2007, il y a à peu près 240 personnes qui sont mortes juste dans l'état d'Arizona.
But that number is only the number of Border Patrol recorded migrant deaths.
Mais ça, c'est les chiffres officiels de la police des frontières, c'est ceux qu'ils ont recensés eux.
And it is estimated that Border Patrol misses about 1/3 of the migrant deaths. So the numbers that we have are inarguably lower than the actual numbers of people that die.
Mais bien entendu, ce sont des chiffres toujours sous-évalués et on considère que la police des frontières rate au moins un tiers des corps de ceux qui sont morts dans le désert.
On avait cru comprendre il y a longtemps que le libéralisme, ben, c'était la liberté, c'était la libre circulation de tout, plus de frontières. Oui, mais enfin, non, pas pour tout et pas pour tout le monde. En tous les cas, peut-être pour les capitaux et encore, mais en tout cas, pas pour les hommes. Et cette frontière en est une preuve. Bien sûr que les frontières ont toujours été... Les limites ont toujours donné lieu à des dépassements, à des contrebandes de toutes sortes, des trafics de toutes sortes, et notamment celle-ci, bien évidemment. Il y a de nombreuses histoires, il y a toute une des légendes très nombreuses sur cette frontière, depuis la tequila au temps de la prohibition jusqu'au passage de marijuana qui continue aujourd'hui, etc. Sauf que là, ça a pris des proportions considérables, tant le fossé se creuse entre riches et pauvres. Là, les États-Unis d'Amérique, c'est 5% de la population mondiale, et ces 5% de la population mondiale détiennent 26% des richesses de la planète. Alors que 50% des 104 millions de Mexicains vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Sont des chiffres évidemment un peu à la hache, enfin ça donne une idée du fossé qui sépare ces deux pays, même si évidemment il faut pas négliger les pauvres du côté des États-Unis, ni non plus négliger les riches, très très riches du côté du Mexique, qui s'enrichissent sur cette situation, notamment dans les narcotrafics. Alors on continue la visite, je dis pas la promenade quand même, même si on est avec une bande d'étudiants venus d'Amérique latine assez rigolards et qui, bien que venant d'Amérique latine, n'ont rien à voir avec leurs congénères et leurs compatriotes de leur pays. Mais ce qui est intéressant, c'est les gens qui sont là, qui suivent cette visite, des dames d'un certain âge, qui militent, qui sont bénévoles dans cette association et qui ne sont pas seulement dans le registre compassionnel.
Fronteras compasivas.
Vous êtes de Tucson?
I've been here 20 years.
Ça fait 20 ans que j'habite ici, moi.
D'accord. Et vous continuez votre travail d'infirmière?
And you're still nursing?
Just retired. And I was looking for, I retired in August and I was looking for different projects that I could become involved with.
Ça fait juste depuis le mois d'août que j'ai pris ma retraite. Donc je cherchais des autres choses dans lesquelles m'engager, faire quelque chose.
Being Jewish, most of my family had originally come from another country.
Moi, en tant que juive, toute ma famille vient originellement d'autres pays.
My father was born in Russia.
Mon père était né en Russie.
Grandparents were born in Russia. Great grandparents in Germany.
Grands-parents en Allemagne.
Ça en fait des frontières.
Very much so.
Oui, beaucoup de frontières à croiser.
Et pas toujours facile à traverser.
Very, very difficult.
C'est pour ça, c'est comme...
And some of them came over illegally, some of my ancestors.
Et certains de mes ancêtres ont passé ces frontières-là clandestinement aussi.
C'est une des raisons de votre engagement.
Definitely.
Quelle est la solution pour vous?
Oh, I don't know.
Je vois pas vraiment, mais c'est rien d'autre que changer la loi. C'est ça qu'il faut, c'est changer la loi.
Okay, we'll continue that route.
So we'll keep on.
I have a response to that, but maybe we can do it at the next stop.
Yeah,
I can talk to you. Okay.
Moi j'ai une réponse, mais je vous la raconterai à la prochaine étape parce que là faut qu'on reparte pour aller remplir un peu plus loin un réservoir d'eau.
About a solution to the problem.
Oui, à propos d'une solution au problème.
I don't know if it's a good solution,
but. Je sais
pas
si c'est une bonne solution, mais c'est ce que j'ai en tête.
I think it would be a good idea for all politicians to rethink our trade policies.
Ce serait pas mal déjà que les politiciens révisent un peu leur, nos politiques commerciales.
In the 90s, there was the North American Fair Trade, NAFTA.
Au milieu des années 80, dans le tout début des années 90, il y a eu le NAFTA, c'est-à-dire l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain.
En 1992, il est rentré en vigueur le 1er janvier 1994.
Clinton was president.
Clinton était président, oui.
Yeah, basically, all of corn, for example, flooded the Mexican market and put people out of business. Farmers had to come north to get work.
L'exemple le plus marquant, c'est le maïs subventionné américain qui a complètement envahi, inondé le marché mexicain où les paysans ne pouvaient plus faire concurrence et où donc ils ont dû abandonner leurs champs et immigrer, passer la frontière de l'autre sens.
So basically, that's why everyone's coming north and. So we've militarized the border.
Donc du coup, tout le monde est au nord, et nous, on a militarisé la frontière pour pouvoir faire face à cet afflux.
As a so-called solution.
Comme étant soi-disant la solution.
And I think that a lot of politicians don't want to deal with the trade policies because of financial reasons. There's too much money involved in it.
Et beaucoup des politiciens, j'en suis sûr, ne veulent pas se coltiner ce dossier des politiques économiques parce qu'il y a beaucoup trop d'enjeux, beaucoup de trop d'argent en jeu.
So they're applying this band-aid approach, which the border fence I call the band-aid approach, because I really don't think that it's going to, you know, it's just a waste of money.
Et donc ils appliquent cette politique que moi j'appelle la politique du sparadrap ou la politique du pansement, qui est le mur et qui moi je pense est absolument inutile et sans effet quoi.
Sauf que c'est pas un pansement, c'est pas un sparadrap, c'est une blessure.
Yes, but it's a band-aid as far as the solution. It's not going to help anything. I think it's just going to hurt things.
Oui, c'est sûr que ça va pas rien arranger. Au contraire, ça va faire empirer les choses.
Mais alors, parce que... Ah, ça repart encore.
Are we leaving already?
Yeah.
Okay. We'll talk.
Peu à peu, on découvre quand même le déploiement... de matériel, d'argent bien évidemment, de militaires, de personnel, d'ingéniosité. Enfin, cette mobilisation pour lutter contre l'immigration. Là, par exemple, les border patrol, les patrouilles de frontières, là, sur des chemins de terre, là, près de la frontière, et à une technique qui est de passer des pneus derrière le véhicule, ils attachent un pneu qui lisse la piste, qui lisse le chemin de sable, ce qui leur permet ensuite, en revenant, de voir s'il y a des traces du passage des migrants. C'est les techniques qui sont utilisées par les chasseurs pour les gibiers. Je suis sûr que si on demandait aux chasseurs ici, il y a beaucoup de chasseurs dans le coin, ils doivent avoir les mêmes techniques pour repérer les bestiaux, les animaux sauvages, que les migrants qui viennent du Mexique. Ils n'auront ni faim ni soif et la chaleur du désert où le soleil ne les affectera pas. Celui qui a de la compassion pour eux les guidera et les amènera près d'une source d'eau. C'est dans Isaïe 49, 10. Voilà, et ça c'est le genre de phrase qui inspire beaucoup de démarches et beaucoup de vocations dans ces pays et dans ces régions d'Amérique, les États-Unis où la Bible a beaucoup d'importance donnée à boire à ceux qui ont soif, même si l'organisation avec laquelle nous sommes est plutôt catholique, parce qu'il y a beaucoup d'importance dans ces régions entre les protestants et les catholiques. Les catholiques ont plutôt tendance à soutenir les Mexicains qui le sont aussi. C'est des choses qui sont importantes. Mais l'important, évidemment, c'est le mur et c'est cette idée d'essayer de retenir les hommes, de les empêcher de passer. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est avec des moyens très modernes. Mais ce qui est intéressant avec ce mur, c'est que c'est très disloqué. On est assez impressionné, on est assez perplexe, quand même, de temps à autre, prolongeant cette frontière, parce que c'est quand même assez désordonné tout ça. Ça se fait de briques et de brocs. De temps en temps, c'est des morceaux de tôle. De temps en temps, c'est du high-tech virtuel avec des tas de choses extraordinairement compliquées. Et on est un peu impressionné que cette puissance, cette super puissance, une puissance sans égale dans l'histoire de l'humanité que sont les États-Unis d'Amérique, agissent d'une façon aussi, j'allais dire, bordélique.
I believe it was in 2005.
Je crois que c'est en 2005 que ça a été lancé.
It's called Project 28.
Ça s'appelle le projet 28.
It was a project that the United States government gave the contract to Boeing.
C'est un contrat qui a été signé avec la société Boeing par le gouvernement des États-Unis.
As a pilot program, as a test program for a virtual fence.
Et à l'origine, c'est toujours d'ailleurs un projet pilote sur l'idée d'une frontière virtuelle.
The point of the fence is to act as an aid to the border patrol agents that are in the field through a series of advanced technologies like infrared, motion detectors, that sort of thing.
Et l'idée, c'est de mettre à la disposition des patrouilles de la police des frontières tout un tas de technologies dernier cri, le détecteur de mouvement, infrarouge, radar, pour pouvoir mieux détecter les migrants, les clandestins.
Quel est le coût de ce projet?
The estimates are hard to sort of know which is really true.
C'est très très difficile d'avoir des estimations claires.
Between 3 billion and 30 billion.
Mais les estimations qu'on peut voir, c'est 3 à 30 milliards de dollars.
That's just the contract that Boeing has won, and there's been debates as to how much Boeing will continue to spend.
Ça, c'est juste pour le projet 28 qui a été signé avec Boeing, et il y a encore des discussions justement savoir jusqu'à combien ils vont dépenser encore.
Sur le mur qui sépare les territoires palestiniens et Israël, on trouve les mêmes technologies.
Actually, it's interesting that you mentioned that because the equipment, the cameras involved in Project 28 are from Israel.
C'est intéressant que tu parles de ça parce que les caméras qui sont installées sur le projet 28, sur ces grands pylônes, sont de construction israélienne.
And the problem that this has created is with regards to the programming of the cameras because they were written obviously in Hebrew.
Il y avait des problèmes justement de programmation, de mise en route parce que le programme était en hébreu.
And so this created some problems which has been one of several problems that have made Project 28 so far not functioning.
Et c'est un des différents éléments, un des différents problèmes accumulés qui font que ce projet 28 n'est toujours qu'à l'état de projet, ne fonctionne toujours pas.
Combien coûte une de ces tours là qu'on voit?
I believe that each tower is about $8 million, between $6 and $8 million. And again, there are 28 of those, and since they began construction, they have not been operational.
Voilà, chaque tour, il y a une estimation, une fourchette pour chacune de ces tours virtuelles de 6 à 8 millions de dollars, sachant qu'il y en a 28 qui ont été construites à titre de pilote et que ça ne fonctionne toujours pas.
Los Tigres del Norte, el mojado acaudalado, le clandestin qui a réussi.
Adios, adios, California.
Adieu, adieu, Californie. Texas, Chicago et Illinois. J'emporterai avec moi votre souvenir. Parce que je rentre chez moi. Car bien que je gagne beaucoup, je ne suis pas heureux ici.
Adios, adios, Colorado.
Adieu, adieu, Colorado. Nevada et Oregon.
Adios, les fils del mojado.
C'est le clandestin qui vous salue. Celui qui s'est trempé de sueur. Dans les champs de l'Arizona. Et les usines de New York.
Me está esperando, México lindo.
Je sais que tu m'attends, mon beau Mexique, et c'est pour ça que je rentre. Je suis le clandestin qui a réussi. Et c'est chez moi, sur ma terre, que je veux mourir. Les États-Unis non plus, je ne les oublierai pas. J'ai voulu faire de l'argent et je suis venu le gagner ici. Mais c'est dans mon beau pays, chéri, que je veux le dépenser. Tu m'attends, mon beau Mexique. Et c'est pour ça que je rentre. Je suis le clandestin qui a réussi. Et c'est sur ma terre que je veux mourir.
Donc là, on est quand même dans une espèce de terrain, terrain de caravane, au pied de la tour, là. Donc un des piliers de la barrière électronique, quoi, c'est ça?
La barrière virtuelle. Et puis là, il y a une bande de gars qui est sympathique comme tout, qui sont en train de se faire un petit feu. C'est en train de se faire griller des poivrons, là, qui sont bons comme tout, et des sympathiques chasseurs. Waouh! Alors là, là, il y a une sacrée bestiole, ils sont en train de dépouiller. C'est un sanglier qui sont. Ils l'ont tué aujourd'hui. Qui l'a tué?
C'est lui.
Yeah, you shot right here.
Large, high powered rifle.
High power.
Alors là, c'est pas mal cette rencontre, hein, parce que c'est pas très peuplé l'endroit où on se trouve là, de l'Arizona, c'est le désert. Mais là, on a trouvé un endroit pas mal. Il y a cette tour, donc l'une de ces fameuses tours Boeing. Il doit y avoir au total 1800 le long de cette frontière. C'est un marché considérable pour la société Boeing. Mais juste à côté, il y a des gars qui sont là, venus avec leurs énormes pick-up et qui sont en train tout à fait peinards autour d'un feu de bois, de se faire des grillades, tout en descendant moult bières. Et à côté, ils ont leur caravane, ils ont leur mobile home, ils ont dressé des petites tentes et ils sont en train de se faire des douceurs. C'est-à-dire qu'ils échappent à l'épouvantable bouffe américaine et ils se font leur tortore eux-mêmes. Ils sont tranquilles et ce sont des chasseurs, des gars du coin, qui se retrouvent là, loin de la maison, et qui passent du bon temps.
Oh, this individual is a private security guard.
Le gars qui est là en bas du pylône, c'est un agent de sécurité privé.
He's from Pinkerton Security.
Pinkerton Security, c'est sa société.
Large security company.
C'est une très grosse compagnie privée ici aux États-Unis.
And they're contracted to watch the towers.
Et ils sont engagés pour surveiller les tours.
24 hours a day, 7 days a week.
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
With several of them here along the border. They just pop up in the middle of nowhere.
Il y en a comme ça plusieurs tours tout le long de la frontière qui sortent de terre comme ça au milieu de nulle part.
Et vous faites quoi juste?
I'm a wildlife officer. They call us game wardens.
Voilà, moi je suis un garde de chasse.
We patrol the border as well.
Et on patrouille aussi sur la frontière.
In this region during our hunting season.
Pendant la saison des chasses.
And we've got the same, you know, we've got the same, obviously, the same concerns with the, you know, drug runners and illegals coming across that everyone else does. Because we have to work here.
Et on a les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes avec tous les trafiquants de drogue et aussi tous les immigrés clandestins qui passent par ici parce qu'on est confrontés comme tous ceux qui se bossent dans le coin, quoi.
Quel problème ça pose, ça, cette immigration?
Transporting illegal drugs.
Bah, c'est déjà ceux qui transportent de la drogue.
And along with the transport of drugs, you get individuals that are aggressive and to protect the load. Always have firearms. We've been fired upon, you know, many, many times.
Et donc, des gens qui trafiquent les drogues, ce qu'ils ont envie de faire, c'est de protéger leur cargaison. Et donc, ils sont toujours armés. Et nous, les gardes-chasse, on s'est très souvent fait tirer dessus par les trafiquants.
I have myself seized drug loads, you know, in the field that we come across, because that's where we work. Yeah. That's our office in the desert. So we
come across. Moi, mon bureau, c'est le désert. Alors quand je me balade dans le désert, je vois des fois des paquets de drogue, etc. Et donc ça, c'est mon boulot à moi, c'est que mon bureau soit bien entretenu.
Oh yeah.
Mais vous vous défendez, vous vous laissez pas faire, vous êtes armé aussi.
Oh yes, yes, yes. Yeah, we have full police powers.
Ah oui, on a les pouvoirs de police ici. C'est pour ça qu'il a l'étoile de shérif.
Voilà. Les chasseurs sont gardés par le garde-chasse, et c'est John, le garde-chasse, un bon gros gars, voilà, très très chaleureux. Et puis donc à côté, il y a l'une de ces tours Boeing, tour virtuelle, et qui évidemment sont gardées et rigoureusement gardées.
Et là c'est human border, non?
Those are water barrels.
Ouais.
And before we got here, this was a hot spot where illegals could come and get water to continue their journey.
Avant qu'on vienne s'installer ici, ici c'était un coin vraiment très fréquenté par les immigrés clandestins qui venaient ici pour prendre de l'eau dans ces réservoirs d'eau et poursuivre leur voyage.
They will surrender to us, the ones that get tired and hungry. I've had five myself.
Non, mais maintenant ce qui se passe, c'est qu'ils viennent et ils se rendent à moi, en fait. Moi, j'ai rien que moi, il y en a cinq qui sont venus en levant les mains pour se rendre parce qu'ils étaient épuisés, fatigués, affamés.
We had one surrender like 2 days ago.
Le dernier en date, c'était il y a 2 jours de ça.
Well, the ones that have surrendered are friendly.
Bah, ils sont très amicaux.
I learned enough Spanish where I can ask them if they're armed. Let me look in your bags.
Moi, j'ai appris suffisamment d'espagnol pour pouvoir leur demander s'ils sont armés. Laissez-moi regarder dans vos sacs.
I ask them if they're hungry or thirsty, and if I have some food and water, I'll take care of them because they are human.
Ouais, moi je demande s'ils ont faim ou s'ils ont soif, et s'ils ont besoin de quelque chose, je leur donne à boire, à manger, parce que ce sont quand même des êtres humains.
The ones that I have had are cold. They don't dress warm enough. They're afraid they're going to die.
Moi, ce que j'ai vu, ils avaient peur de mourir. Ils étaient affamés, assoiffés. Ils n'étaient pas habillés assez chaudement, donc ils étaient grelottants de froid.
Maybe injured a little bit.
Parfois, ils étaient souvent blessés aussi.
Or their group has left them and they're lost.
Ou alors, c'est que leur groupe avec lequel ils passaient les avait laissés derrière et ils étaient perdus.
It's a big problem.
C'est un gros problème, ouais.
Okay.
Good luck. Thank you very much.
La société privée Pinkerton, quoi. Mais il est sympa parce que, tu vois, si vous avez envie, les gars, ils lui prêtent ses toilettes.
Ouais. S'il n'aimerait pas qu'on salisse le quartier, quoi.
Bah non. Tu vois, c'est humain.
Ouais.
C'est humain. Il te prête ses toilettes. C'est un humaniste, enfin, un humanitaire.
The other problem we have is the illegal immigrants coming in to hunters' camps and asking for food, water, and wanting to ride back across to Mexico because they're too tired to go on, especially in the summer and in the winter.
Et l'autre problème qu'on a aussi, c'est les clandestins, ceux qui essaient de passer la frontière illégalement, qui arrivent dans les campements de chasseurs comme celui-ci et qui demandent à boire, à manger, et qui parfois prennent tout ça avant de repartir chez eux parce qu'ils n'ont pas réussi, ils ont trop marre, c'est trop dur.
Ah, ça, il y en a beaucoup?
Yes. I've been working here in 19 years.
Moi, ça fait 19 ans que je travaille ici, vous savez.
And it has been, it's probably at its one of its highest here in the last five.
Et les 5 dernières années, ça a été vraiment au pic de l'immigration clandestine.
Just more people wanting to come across to this country.
Il y a de plus en plus de gens qui veulent rentrer ici dans ce pays.
Et pourquoi donc?
Better life. You know, I mean, Mexico.
C'est avoir une meilleure vie.
You know, Mexico is. I'm sure you have the same problems in Europe. You know.
Mais vous avez, j'imagine, vous avez les mêmes problèmes en Europe.
People coming across. I mean, this is. You know, everybody wants to come to the U.S.
Tout le monde veut venir aux États-Unis pour avoir du boulot. Bah, c'est pareil chez vous. Les gens veulent venir.
That's all people want to do. I mean, it's just come here to make money, work, make money to send back to their families in Mexico.
La plupart d'entre eux, ils viennent ici pour travailler dur, gagner de l'argent et leur envoyer l'argent à leurs familles qui sont restées au Mexique.
When I first started working, every once in a while, you'd see the same people coming across. You know, and they'd come out. And got them back. Now it's just huge numbers coming.
Ouais, au début, quand je bossais ici à 19 ans, on voyait souvent les mêmes têtes. Parce qu'en fait, ils allaient, ils revenaient. Mais maintenant, c'est un passage massif. Avec le mur, on peut plus repasser dans les deux sens.
Est-ce que vous pensez que le mur, c'est une bonne idée?
Even with a wall, people find a way to get over it.
Mais vous savez, même s'il y a un mur, les gens réussiront à passer par-dessus.
You know, just like the wall in Berlin,
c'est comme le mur de Berlin. Vous savez, c'est la même chose.
It's the same thing. I mean, if you go down to Sassabies, another 11 miles,
si vous allez
you'll
à
be
11
able,
d'ici
you'll
à
be
Sassabie,
able to see the wall.
On peut voir le mur comme ça.
Merci à tous. C'était un reportage avec Guy Vanctil et Antoine Chao. À la technique, journaliste Sophie Moreno et Patrick Henry, Yann Chouquet et Raphaël Mouter ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry qui attend vos messages au répondeur de la base. J'y suis dans le numéro 01 56 40 37 37.